C'est l'heure de retrouver Sylvère Henri Cissé pour Longue Distance. Bonjour.
Bonjour Cécile, je vous remercie. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h30 en temps universel. Merci. Bonjour à tous. Lundi, nous serons ensemble à 10h en temps universel. Je dis bien 10h en temps universel. Vous retrouverez à Longue Distance avec l'invité du bout du monde, mais également quelques petites nouveautés à découvrir dès 10h en temps universel. Aujourd'hui, c'est Longue Distance au Salon du Livre. Mercredi, c'est tenu et se sont refermés. D'ailleurs, c'est refermé le Salon du Livre, le 16e du nom, mais nous, on y était avec nos invités, nos amis, avec Nicole Bacharan, qui est auteur de livres notamment sur la société américaine, et également Bob Swan, le réalisateur du film La Balance, qui est son plus grand succès, mais d'autres films également qu'il a tourné à Hollywood et ici en France. Nous allons le recevoir pour parler de quoi ? Eh bien, tout simplement du livre aux États-Unis, des Américains et de la lecture, aujourd'hui dans Longue Distance, entre 8h et 9h en temps universel, donc avec Bob Swan et Nicole Bacharan au Salon du Livre. C'était mercredi. On va vous proposer ces enregistrements. Pour l'instant, voici Olivier Ngoma avec Adia. C'est Longue Distance au 16e Salon du Livre avec nos invités. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants de cela, nous avons invité aujourd'hui Nicole Bacharan. Pourquoi Nicole Bacharan ? Puisque c'est une Française qui a vécu très longtemps aux États-Unis. Bonjour Nicole.
Bonjour Sylvère.
C'est au Texas que vous avez vécu, n'est-ce pas ?
Au Texas, oui, pendant 7 ans.
7 ans, et c'est là-bas au Texas que vous avez écrit un fabuleux livre dont nous avons déjà parlé dans cette émission, l'histoire des Nord-Américains au XXe siècle.
J'espère qu'il est fabuleux, merci.
Non, je peux vous le dire, je peux le dire aux auditeurs. Avec vous, nous parlerons des Américains à la lecture et Bob Swan qui est avec nous. Bonjour Bob.
Bonjour.
Bob Swan, c'est un nom qui nous est très familier. On vous connaît pour le film La Balance qui réunissait Philippe Léotard, Nathalie Baye. Qui d'autre encore ?
Richard Berry, le dernier film de Maurice René. C'est le film où on a découvert pour la première fois Jackie Caio, Christophe Malavoie, Florent Pagny.
Il y a du bon monde. Si vous êtes avec nous, c'est pour parler un peu de cinéma, mais essentiellement de littérature, parce que vous avez choisi la France et ce pays un peu pour son côté littéraire.
En fait, je suis venu en France pas pour faire du cinéma au départ, je suis venu pour écrire les grands romans américains, une chose que je n'ai pas fait d'ailleurs, ouais. Parce qu'entre-temps, j'ai découvert la cinémathèque et le cinéma. Mais c'est vrai, c'est grâce à Henry Miller, Hemingway, Scott Fitzgerald, toutes ces Américaines qui sont venues à Paris, que je suis tombé amoureux de Paris sans le connaître.
Alors moi, je voudrais savoir, comment êtes-vous arrivé ? Vous étiez riche, les poches bourrées d'argent, ou vous étiez pauvre ?
Bien sûr, je suis arrivé en Cadillac.
C'était le rêve américain ou vous êtes arrivé pauvre, plutôt le rêve français ?
Je suis arrivé comme toutes les beatniks, enfin c'était un peu avant moi, mais enfin je suis arrivé avec un sac à dos, $70 et un paire de jeans et c'est tout quoi.
Ouais, tout simplement. Et vous avez découvert petit à petit ce pari littéraire. Comment l'avez-vous découvert et qu'avez-vous découvert, Bob Swan?
Ben, c'était très intéressant cette expérience parce que je suis arrivé en pensant que j'allais à Montparnasse, que si je me mis sur le café du Dumago, sur le terrasse de Dumago
au café de Flore,
oui. ou à la Coupole, j'ai certainement croisé des grandes romanciers américaines et français. Mais bien sûr, j'avais 20 ans et puis c'était pas comme ça. Et très vite, je me suis rendu compte que chaque endroit découvre la ville lui-même. Parce que, en fait, il n'y avait pas un univers d'Hemingway, de Miller, etc. Ça fait partie du passé. Et puis moi, je devais découvrir Paris à mon tour, mais à ma manière. C'est ce que je fais, d'ailleurs.
Et vous l'avez découvert à votre manière, en traversant à pied Paris de long en large et de haut en bas?
Absolument. Le premier travail que j'ai trouvé, c'était dans un garage de Citroën à Porte de Pantin. Et j'ai fait le trajet de ma petite chambre de bonne dans la 16e jusqu'à Porte de Pantin à pied tous les jours. Et c'était formidable.
Ah oui, mais c'est fatigant aussi, non?
À 20 ans, je n'ai pas de souvenir que ce soit fatigant.
Oui, c'est vrai qu'à 20 ans, on est plein d'énergie. Et vous marchiez comment? La tête en haut, vous regardiez un peu ce qui se passait autour de vous?
La tête en haut, bien sûr, parce qu'à Paris, ce qui est le plus génial, c'est quand on lève les yeux, on découvre plein de choses. C'est sûr.
Cette découverte de Paris, est-ce que vous l'avez utilisée pour vos différents films? Est-ce qu'il vous arrive de vous attabler dans un café et de commencer à écrire, d'utiliser même un peu ce qui se passe autour de vous et d'utiliser un peu les personnages qui sont autour de vous?
Oui, je crois que c'est surtout quand on commence à écrire, on écrit sur des choses qu'on connaît. Donc mes premiers scénarios, mes premières nouvelles, mes poèmes, parce que quand j'étais très jeune, je faisais des poèmes, comme toutes les jeunes Américaines à Paris. Mais c'était tout ce que j'ai découvert, parce que tout était nouveau. C'était comme je suis arrivé sur notre planète. À la fois, c'était je suis arrivé dans ce qui était à la fois un rêve et puis une autre réalité. C'était formidable. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour écrire. J'aimais trop de choses. Je n'avais pas la patience d'être seul pendant des heures à une table pour écrire que... J'avais besoin de trouver une autre voie pour m'exprimer et c'est là que je suis tombé sur le cinéma.
Je vous demandais tout à l'heure si vous êtes déjà inspiré de certains personnages que vous avez croisés dans vos différentes balades parisiennes. Est-ce que vous avez peut-être là en mémoire quelqu'un qui a inspiré un de vos films, peut-être qui a inspiré La Balance, un des acteurs de La Balance ou un des rôles de La Balance?
Mais c'est très simple, La Balance, ouais. C'était justement parce que je me suis baladé, un jour j'ai tombé sur une équipe de policiers, je me suis sympathisé avec eux. Et j'ai vécu un an au sein d'un brigade territorial, enfin une DPJ parisienne de la police judiciaire. Et il y avait un inspecteur de police qui m'a inspiré pour le personnage de Paluzzi dans La Balance, joué par Richard Berry.
En France, nous avons des réalisateurs qui sont des auteurs, pour la plupart, qui écrivent. Ce n'est pas le cas aux États-Unis.
Non, aux États-Unis, c'est un système très différent. Quand je fais Masquerade là-bas, je me suis rendu compte que c'est très très rare que les metteurs en scène eux-mêmes fassent des scénarios. Bon, là-bas j'ai travaillé avec un grand scénariste américain, mais bien sûr j'ai pu retravailler les textes.
Si on parlait un peu de votre bureau, Bob Swan, parce que j'ai une chance énorme, je suis rentré chez vous, j'ai pu regarder autour de moi et j'étais installé dans votre bureau, regarder autour de moi et j'ai vu que c'était le bureau de quelqu'un qui aime la littérature. Alors que trouve-t-on dans votre bibliothèque?
C'est vrai que je suis quelqu'un avant tout, quelqu'un qui adore des livres, peut-être même avant le cinéma qui est quand même curieux. Le cinéma pour moi c'est la façon de m'exprimer, mais c'est vrai que j'ai une passion pour les livres. Et j'ai des goûts très éclectiques. J'ai commencé bien sûr quand j'étais jeune avec tous les l'ouvrage d'Henry Miller parce que c'est à l'époque un peu interdit aux États-Unis, etc. Et puis c'est grâce à Henry Miller que j'ai découvert d'autres auteurs parce que lui avait une grande passion pour les livres. Et c'est marrant parce qu'on voyage un peu avec les livres. Les livres, on n'est jamais seul avec un livre. Un livre nous emmène d'autres amis. Hein. Un auteur parle de, d'autres auteurs. Et puis, parmi eux, j'ai découvert Blaise Sandra. Mmh. Par Sandra, j'ai découvert d'autres auteurs, etc. Et finalement, ce qui est curieux, c'est par cette passion pour les livres que je suis arrivé à faire mon premier long métrage. Parce que je ne sais pas quel auteur m'a dirigé vers Léo Mallet. Mais Léo Mallet, qui a fait les Nestor Burma, c'était un auteur au départ surréaliste qui a commencé à faire des films policiers. Et en les années 70, au début des années 70, j'ai découvert tout l'ouvrage de Léo Mallet. Et ce que j'aimais bien, c'est que chaque livre passait dans un quartier de Paris. Et moi, qui avais cette grande passion, ce grand amour pour Paris, j'ai commencé à lire ces livres policiers simplement parce que, à la fois, il y avait une histoire policière, mais en même temps, on décrit un quartier. Mmh. Un quartier souvent autrefois, les années 50, par exemple, une période, déjà en 70, on était en train de détruire Paris. C'était une grande période, malheureusement, où on a commencé d'arriver avec les bulldozers dans les quartiers. Et quand j'ai lu Bouillard au pont de Tolbiac, les bulldozers étaient déjà là.
Donc c'est vous qui avez découvert Léo Mallet, en quelque sorte, pour le grand public, hein, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il était oublié. Le dernier film de Léo Mallet était en 1943. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé. On a commencé de sortir quelques livres, mais de manière assez marginale. Et puis, moi, je n'étais pas connu quand j'ai fait La Nuit de Saint-Germain-des-Prés. Mmh. Et donc, on a décidé qu'on va mettre toute la pub sur Léo Mallet. Mmh.
La Nuit de Saint-Germain-des-Prés, qui est votre premier film.
C'est mon premier long métrage, d'après le livre de Léo Mallet. Mmh. Alors, au départ, je voulais faire Bruyère au pont Tolbiac. Mmh. Et j'ai fait un scénario avec Claude Villers. Mmh. Et on a emmené ça chez un producteur, mais il dit, mais c'est pas assez commercial, etc. Il faut faire Saint-Germain-des-Prés, et après Saint-Germain-des-Prés, on va faire l'autre. Et puis finalement, je fais Saint-Germain-des-Prés. Le film a un succès critique, mais pas du tout public. Donc, il n'y avait jamais de suite.
Jamais de suite, malheureusement.
Hein, oui, parce qu'il est très, très joli.
Il n'a pas suffi. Avant de se quitter, je voudrais qu'on revienne très rapidement dans votre bibliothèque. Elle est composée essentiellement de quoi ? D'auteurs américains, d'auteurs français ?
Ben, c'est surtout, comme je dis, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que je connais beaucoup mieux les auteurs américains que les auteurs français. En ce moment, j'ai découvert un jeune auteur américain qui s'appelle Jake Lamar, mm-hmm. qui a écrit son premier roman qui s'appelle The Last Integrationist. C'était un noir américain qui était journaliste chez Time et qui a fait son premier roman qui est formidable. Mm-hmm. Et puis, il y a Bonnie Greer, qui est aussi un Américain qui vit à Londres. C'est une autre génération d'auteurs. Et c'est vrai, c'est passionnant. C'est des gens qui voyagent, qui voient le monde un peu différent que les autres Américains qui sont venus à Paris. Parce que les deux, ils ont passé un peu de temps à Paris. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les connais. Et puis, j'ai commencé à lire le livre. Et c'est formidable parce que chaque génération d'Américaine à Paris, je crois, emmène des choses et puis nous, on prend des choses.
Mmh. Nous parlons souvent de littérature américaine dans l'émission Longue Distance, notamment le vendredi avec Pierre Valot. Nous avons constaté dans cette émission que l'écriture américaine en général, est beaucoup plus rapide, beaucoup plus instinctive, beaucoup plus directe que l'écriture française. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Je suis un peu d'accord. Il y a deux phénomènes, je crois, que c'est d'une part, où vous avez une telle histoire, un tel passé. Parfois, le passé, si important, c'est comme des chaînes. Vous êtes enchaîné, vous êtes lié à ce passé. Le mot écrit a beaucoup plus d'importance pour vous, les Français, que pour nous, les Américains. Ça, c'est une chose. Donc, si vous voulez, on n'a pas cet respect pour le passé comme vous. Et deuxièmement, nous, on s'est mis à écrire avec les ordinateurs, les traitements de texte bien avant vous. Et je vous dis une chose que moi j'ai constaté moi-même, c'est d'écrire avec un traitement de texte, c'est très différent que d'écrire avec un stylo.
On prend moins de temps, c'est ça ?
C'est-à-dire, aussitôt que vous pensez le mot, il est sur l'écran. Il n'y a pas ce décalage mécanique entre la main sur le papier ou le doigt sur la machine à écrire. Mm-hmm. Et en même temps, ce n'est pas forcément bon. Ça peut être parce que parfois je trouve qu'il y a un manque de réflexion. C'est autre chose,
c'est un autre moyen d'écrire, hein, différent. Bob Swan, vous restez avec nous, on va se retrouver d'ici quelques instants et on va parler d'une, si vous le voulez bien, d'une lettre qui se trouve dans votre bureau justement, et d'une lettre épatante. A tout de suite.
Il y a des parfums qui vous prennent dans un café, qui d'un coup vous rappellent des souvenirs mélangés. Comme un si beau regret, une blanche prière, le long chapelet de ces rivières, comme quand parfois je pense à toi. Il y a des choses essentielles qui se télescopent du désert de Paris à Paris, mes rêves s'entrechoquent comme cette fille qui passe sur la passerelle du bleu du ciel au goût du miel, comme quand parfois je pense à toi. Je pense à toi. Comme un si beau regret, une blanche prière, le long chapelet de ces rivières, comme quand parfois je pense à toi.
Avec sa guitare sous votre balcon, c'était Dick Rivers, Je pense à toi dans Longue Distance. J'ai pour vous aujourd'hui, vendredi 29 mars, une phrase assez courte. C'est une phrase de 6 mots. La phrase qui va vous permettre de gagner les cadeaux RFI. J'ai pour vous la calculette RFI et le dictionnaire des citations paru aux éditions Livre de Poche. Alors vous notez les 6 mots suivants, vous les mélangez, vous allez reconstituer la phrase magique. A, accent grave, E-E-S-T, E-E-S-T. Égoïsme, E-G-O-I-T-R-E-M-A, S-M-E, égoïsme, E. G-O-I-T-R-E-M-A-S-M-E. 1, U-N, 1, U-N, l'amour, L'apostrophe, A-M-O-U-R, l'amour, L'apostrophe, A-M-O-U-R, et 2, D-E-U-X, 2, D-E-U-X, et vous avez les 6 mots de la phrase magique de ce vendredi 29 mars, la dernière phrase magique que l'on vous propose. A, accent grave, est, égoïsme, 1, l'amour, et 2, l'adresse à laquelle vous allez nous faire parvenir cette phrase reconstituée, RFI, la phrase magique, votre postale 95 16 75 016 Paris France. RFI, la phrase magique, votre postale 95 16 75 016 Paris France.
Chaque jour, écoutez RFI et reconstituez la phrase magique. Bonne chance.
Avant de se retrouver lundi avec un nouveau jeu qui vous permettra de gagner encore une fois de plus des tas de cadeaux, voici la réponse à la phrase magique du vendredi 9 février. Il fallait reconstituer une phrase de 11 mots, une phrase d'Alfred de Vigny. L'humanité fait un discours dont chaque homme illustre est une idée. L'humanité fait un discours dont chaque homme illustre est une idée. Pas de gagnant. Bah oui, c'est une des rares fois où cela arrive. Pas de gagnant, donc je prends ma calculette et mon dictionnaire et je vous les reproposerai lundi pour un nouveau jeu à découvrir dans Longue Distance. Zazie, elle est tranquille, vraiment tranquille. C'est normal, c'est le printemps. La voici avec Zen, avant de refaire un petit saut au 16e Salon du Livre.
Qui se prennent à mon filet de voix, pauvres pêcheurs. Oh, fallait lire entre mes lignes, pas mordre à mes sautes d'humeur. même si je n'en suis pas digne. Fallait rester zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen. Plus le choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Sans amour. Sont prêts à larguer les amours, tous ces maîtres chanteurs. Moi qui manque de coffre et de cœur, c'est facile de compter les erreurs. Moi quand on ne joue pas la scène, mais l'erreur est humaine, soyons zen. Soyons zen, plus de choc à la chaîne, zen, restons zen, du calme à la vie comme à la scène, sans amour, sans haine.
Dans Longue Distance, nous sommes au Salon du Livre, au 16e Salon du Livre, avec nos invités Nicole Bachand et Bob Swaine. Bob Swaine, tout à l'heure, je disais que j'avais une chance énorme, c'était de pouvoir entrer dans votre bureau. Et en promenant dans votre bureau, j'ai vu une lettre qui était sous verre. Et c'est la lettre d'un grand réalisateur. Et elle a une histoire, cette lettre. Hein.
Oui, oui, c'est une lettre de François Truffaut. Et puis, François Truffaut a compté beaucoup pour moi dans ma carrière. D'abord, mon premier court-métrage, ma toute première expérience au cinéma, était faite avec les bouts de pellicule qui restaient de son film « Baiser volé ». Les chutes de baiser volé. On avait des petits morceaux et puis j'avais un court-métrage. Et vous savez, quand on fait un film, juste après les prises, on coupe les petits morceaux qui restent parce qu'on ne peut pas commencer un autre plan. C'est trop dangereux qu'on n'aura plus de pellicule en cours de plan. Donc, dans les longs-métrages, on coupe ces petits bouts et on les met dans les boîtes et on les garde pour les essais, etc. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir ces petits bouts de pellicule. J'avais une centaine de boîtes. Et les petites bouts de pellicule, ça durait 10 secondes, 20 secondes, maximum 30, 45 secondes. Et j'ai calculé chaque plan, j'ai répété chaque plan, et puis j'ai mis le pellicule dans la caméra, et j'ai juste le temps pour le plan. Mais parfois, les assistants sur les longs-métrages, ils calculent plus ou moins. Et c'est arrivé plus souvent que non, qu'il n'y avait pas cette pellicule, et en plein plan, hop, plus de pellicule. Mais ça, c'était mon premier rencontre avec Truffaut, et puis... Je l'ai connu plus tard par l'intermédiaire de l'Américaine qui travaillait les artistes associés qui s'appelle Ellen Scott. Et je me souviens, bon, qu'il était toujours là avec des conseils, etc. C'est quelqu'un qui était extrêmement généreux avec son temps, surtout pour les jeunes réalisateurs. Et d'ailleurs, mon premier film en tant que premier job professionnel, c'est comme petit acteur figurant dans également Baiser volé, où j'ai joué un militaire.
Et il vous a remonté, en fait, le moral, François Truffaut. Parce
oui,
qu'il y a
c'est
eu
vrai.
La balance qui n'a pas été qu'un bon moment.
Non, la balance est curieuse. C'est un film, bon, que, comme je vous ai dit, j'ai passé un an chez les policiers de la police judiciaire, et puis j'ai écrit ce film. Et puis, miracle, ce film devient un énorme succès. Un succès mondial, d'ailleurs. Et en plus, j'ai eu toutes les Césars, j'ai eu le meilleur set de l'année. Et il y avait beaucoup de, il y avait une grande polémique autour de ça, parce que c'était très contesté, parce que cette année-là, il y avait le film de Vajda, il y avait un film de Jacques Demy, et un film de Godard. Donc, moi, j'étais tellement content d'être même nommé avec ces grands réalisateurs, parce que c'était tous mes idoles. Et je n'imaginais pas que j'aurais eu le moins de chance d'avoir un César. Et alors, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, la balance. Alors moi, je ne pouvais plus, là, j'étais extraordinaire. Mais c'est vrai, une espèce de polémique, et puis des choses très désagréables qui étaient dites sur moi, sur le film, etc. Et ça m'a beaucoup touché, et j'étais un peu déprimé. Et un jour, François, elle a entendu parler de ça par justement Ellen Scott, et puis elle m'a envoyé une petite lettre. Et cette lettre était... ça m'a bouleversé. C'est vrai, c'est une chose qui était très importante dans ma vie parce que, une fois de plus, Truffaut était là avec les mots justes.
Avec une très belle écriture, et c'est une lettre pleine de sérénité qui a dû vous réconforter.
Ah oui, ah oui, incroyable. Parce qu'il avait ce talent de voir des choses claires.
Ouais. Ah. Où il vous disait en quelques mots, n'ayez pas d'inquiétude, c'est un très bon film. Et vous allez réussir, il n'y a aucun problème.
Oui, ouais. C'est exactement ce qu'il a dit.
Ouais. Merci Bob Swan. Vous restez avec nous. Hein, dans la deuxième partie de l'émission, on se retrouvera avec Nicole Bacharan, auteur du livre « L'histoire des Noirs américains au XXe siècle » et qui va nous parler des Américains et de la lecture. RFI, 8h30 en temps universel, 9h30 à Paris, le tour du monde, Cécile Mégy. Bonjour Cécile.
Bonjour, au moins 3 personnes auraient été tuées dans l'assaut des hommes du raid contre une maison de Roubaix dans le nord de la France. Une intervention liée à la découverte d'une voiture piégée hier soir à Lille. Ouverture aujourd'hui en Italie de la conférence intergouvernementale. Elle doit mettre en place les institutions de l'Europe du 21e siècle. L'intervention des hommes du raid a donc pris fin vers 8h ce matin, heure française. Au moins 3 personnes auraient été tuées lors de l'assaut. 2 policiers auraient de plus été blessés. Les forces de l'ordre tentaient d'appréhender des suspects qui s'étaient retranchés dans une maison de Roubaix dans le nord de la France. Une intervention liée, semble-t-il, à l'enquête sur la voiture piégée découverte hier dans le centre de Lille. 3 bouteilles de gaz ont en effet été trouvées dans une voiture volée, garée à quelques centaines de mètres de l'endroit où doit s'ouvrir lundi la réunion du groupe des 7 pays les plus industriels. Le G7. Le dispositif de mise à feu a mal fonctionné. Seule la vitre arrière du véhicule a été détruite lors de l'explosion. Hausse de 0,5% du chômage en France pour le mois de février. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, il y a eu 15 700... Le taux de chômage reste stable à 11,8% de la population active. On est toujours sans nouvelles des 7 moines français enlevés mercredi en Algérie. Les forces de sécurité algériennes poursuivent leurs recherches dans la région montagneuse de Médéa, à une 60aine de kilomètres au sud d'Alger. Je vous le disais en titre, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à partir d'aujourd'hui à Turin, en Italie. Ils doivent donner le coup d'envoi officiel de la conférence intergouvernementale sur la réforme des institutions, plus couramment baptisée CIG. Objectif, préparer l'Europe du siècle prochain. Autrement dit, mettre en place des institutions viables une fois que les 15 seront passés à 25 ou 30. La conférence doit durer au moins un an. Elle doit également redonner du souffle à la politique étrangère et de sécurité commune, sans oublier l'Europe sociale. Et puis les 15 réunis à Turin évoqueront, c'est certain, la crise provoquée par les révélations sur la maladie de la vache folle. Après une semaine d'hésitation et l'embargo décrété par la Commission européenne sur la viande de bœuf en provenance de Grande-Bretagne, le gouvernement britannique s'est résolu hier à annoncer une série de mesures. Elles viendront en aide à l'industrie de la viande et aux fermiers. Une enveloppe de quelque 660 millions de francs va être débloquée. Par ailleurs, la vente de viande de bœuf provenant de bêtes âgées de plus de 30 mois va être provisoirement interdite. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un séisme qui a secoué la nuit dernière le centre de l'Équateur. C'est ce qu'annonce un porte-parole de la défense civile du pays. Les victimes ont été ensevelies sous les décombres de leur maison. La secousse d'une intensité 5,7 a surtout affecté la localité de Pougouli, à une centaine de kilomètres au sud de Quito, la capitale. Et puis la terre a également tremblé à Taïwan. Un séisme de force 5,6 a touché l'est de l'île. On ne dispose pour l'instant d'aucun bilan des victimes et des dégâts. En Tchétchénie, l'aviation russe a bombardé tôt ce matin le village de Goïskoé au sud de la République. Contrairement à plusieurs localités voisines, les indépendantistes retranchés dans ce village ont refusé jusqu'à présent de signer les accords de paix avec les Russes. Un plan d'urgence économique en faveur des Palestiniens, voilà ce qu'annonce le secrétaire d'État américain Warren Christopher. Une déclaration faite lors de l'ouverture à Washington hier d'une réunion de suivi du sommet antiterroriste de Sharm el-Sheikh. Le plan élaboré en concertation avec Israël prévoit notamment l'assouplissement du bouclage des territoires autonomes palestiniens. La proposition américaine insiste également sur la création d'emplois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Au Burundi, quelques 10 000 personnes fuient la région de Makamba au sud du pays après plusieurs interventions de l'armée. Sur les ondes de la radio nationale, le gouverneur de cette province a appelé à l'aide les organisations humanitaires. Selon lui, cet afflux de déplacés nécessite l'installation de nouveaux camps où une aide sanitaire et matérielle est indispensable. Vous écoutez Radio France Internationale, c'est la fin de ce flash. Il est 9h passé de 34 minutes à Paris, 8h34 en temps universel. Et tout de suite, vous retrouvez Sylvère Henri Cissé pour la suite de Longue Distance.
Merci Cécile, nous allons retourner au 16e Salon du Livre qui a refermé ses portes mercredi. Nous y étions avec nos invités Nicole Bachand et Bob Swain. Nous allons parler des Américains et de la lecture. Restez avec nous. Une dernière fois, je vous précise que nous nous retrouverons lundi 1er mars à 10h en temps universel pour un nouveau Longue Distance.
Ça t'arrive sans cri gare au milieu d'une heure incolore. Un geste, une odeur, un regard qui comme un déchire ton décor. Ce cœur qui t'avait presque oublié se pointe à ta porte et se remet à cogner. Attention, le ballet va commencer. D'abord à une erreur. Tu l'évites et lui te devine entre le désir et la peur. Tu t'entends lui dire des phrases sans aucun sens. Cambré de ses reins qu'elle a noté en doux. Car le balai va s'allumer.
Nicole Bacharan, ça va? Vous avez patienté tout ce temps-là?
Avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup vous écouter, écouter Bob. Je ne me suis pas ennuyée du tout.
Nicole Bacharan, merci de revenir dans l'émission Longue Distance. On vous connaît dans cette émission, puisque vous nous avez déjà parlé de ce livre, l'histoire des Noirs américains au XXe siècle, que vous avez écrit aux États-Unis, au Texas, à Houston. Une enquête de combien d'années sur le terrain pour ce livre?
J'y ai passé 7 ans, ouais. Et j'ai travaillé sur le livre, très honnêtement, 18 mois. Mais 18 mois très intensifs, et puis qui m'a amené à utiliser mon expérience américaine de plusieurs années, ce que j'avais cru observer, ce que j'avais cru comprendre pendant tout ce temps-là.
Ce livre a été un fabuleux déclencheur un peu d'une spécialisation, c'est-à-dire que maintenant on vous présente comme la spécialiste, j'allais dire du problème noir américain, en tout cas de la société noire américaine.
Oui, maintenant j'arrive à Paris et tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, et j'espère que je peux apporter, non pas des réponses, mais des éclairages, des directions de recherche.
Vous êtes invité dans la presse écrite, vous êtes invité à la télévision, à la radio également, pour vous exprimer, n'est-ce pas, hein, sur le problème nord-américain. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous enfermer un peu?
Je crois que le problème nord-américain, ça permet d'analyser toute la société des États-Unis. Et à l'heure actuelle, on en parle beaucoup parce qu'on est en pleine campagne électorale, mmh, et que donc il est important de savoir comment l'électorat noir va se situer et également comment les différents partis, les différents candidats vont s'exprimer par rapport à eux. Donc ça permet de comprendre beaucoup de choses aux États-Unis. Par ailleurs, c'est une culture très très riche dans laquelle moi je me sens pas du tout enfermée, je me sens très libre, j'ai l'impression d'en connaître en fait un tout petit peu et j'ai envie de découvrir plein de choses.
Ce qui va réjouir tous nos auditeurs qui nous écoutent en Afrique en ce moment. Mais je vous pose cette question parce que j'ai l'impression, vous savez, comme certains acteurs, par exemple, tout à l'heure nous étions avec Bob Swan qui est toujours avec nous, mais certains acteurs se spécialisent dans des rôles de méchants et ensuite on va les appeler uniquement pour des rôles de méchants. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de vous enfermer dans ce rôle de historienne spécialiste du problème nord-américain?
Mais très franchement, je prépare un autre livre sur les États-Unis, à la veille du 21e siècle, qui est un livre donc plus général qui cherche à aborder les questions sociales et politiques des États-Unis dans leur ensemble. Mmh. Et en même temps, je prépare une série d'ouvrages sur la Renaissance de Harlem, qui est un petit peu mon dada, mon bébé, comme disent les Américains. C'est-à-dire l'époque du jazz et de la littérature des années 20, mais qui pour moi n'est pas une question noire, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Il y a une littérature et une musique fabuleuse qui n'est pas limitée à une couleur de peau, à une tradition culturelle.
Merci. En tout cas, on peut vous lire aux éditions Complexes avec ce livre que je vous conseille, parce que j'ai eu l'occasion même de le lire deux fois, l'histoire des Nord-Américains au XXe siècle, un excellent livre qui vous permettra de comprendre les États-Unis et même plus que cela, le problème noir aux États-Unis et tout simplement la société noire aux États-Unis. Nicole Bacharan, vous restez avec nous. Bob Swan, vous restez avec nous. Nous allons encore ici au Salon du Livre, au 16e Salon du Livre, parler de l'Amérique et la lecture.
Whoa, yeah! Ow. She can cross the ocean in her private jet. She can have lunch places people never been yet. She can go to parties with the Prince of Wales. Fly to Paris just to catch the sails. I can't explain it, she could have the whole world, but she's got her arms around me tight. And she can do anything, but all she wanna do is love me. Alright. And she can see anyone, but I'm the only one she sees. Oh yeah. And she can do anything, but all she wanna do is love me. And she can be what you want, but she only wanna be with me. Oh. She's got a loft in Soho and a house in Bel Air. When she rides a Harley, people stop and stare. She only wears Versace when she's at the beach. I used to think that she was out of reach. I did. Must be an angel from the heavens above, but when she touches me, it's mighty real.
Nicole Bacharan, vous qui êtes auteur, qui êtes avec nous dans Longue Distance, vous avez vécu 7 ans aux États-Unis et vous avez été frappé par un genre littéraire qui fonctionne très très bien aux États-Unis.
À la limite, je dirais que ce n'est pas un genre littéraire. Ouais. Ce qui fait la fortune des maisons d'édition à l'heure actuelle, ce sont des livres qu'on appelle en Amérique self-help books, c'est-à-dire des livres d'auto-assistance, si on traduit directement, ou que moi j'appellerais des livres de recettes de vie, en quelque sorte. On vous explique dans un langage pseudo-psychologique, avec plus ou moins de sérieux, comment vivre. Alors ça recoupe essentiellement les relations hommes-femmes, qui comme chacun sait ne sont pas toujours simples. Comment avoir du succès professionnel essentiellement, comment devenir riche et comment rester mince et musclé. Grosso modo, ce sont les trois thèmes principaux.
Ça marche jamais.
Pourquoi vous avez essayé, Bob?
J'ai tout essayé.
Mais c'est énorme aux États-Unis, le marché est énorme.
C'est incroyable, mais moi j'adore ce genre de livres, je les achète en pensant juste le fait de les acheter, ça va faire quelque chose.
Mais non, ça ne marche pas. Dites-moi,
Nicole Bacharan, ces livres fonctionnent aussi en France, ils marchent très bien.
Ça n'a rien de comparable, l'échelle n'a rien de comparable. Ouais. La base, ce sont les best-sellers. Aux États-Unis, la vogue est aux très très grandes librairies, d'ailleurs qui sont très sympas, sont des lieux de rencontre, on boit son café, où les gens se revoient tous les jours. Et ce genre de livre occupe mais des kilomètres de rayon et ça va dans les plus petits détails. À tel point qu'il y a certains psychologues qui s'inquiètent d'un effet de dépendance produit par ces livres. Il y a des gens qui sont drogués au bouquin qui va faire de vous quelqu'un de formidable.
Oui, mais ce n'est pas les mêmes bouquins, quand même.
je le crois.
Mais c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est un marché. Et puis, les Américains, une chose, il faut qu'ils discutent de tout. Ils mettent tout. En fait, tous ces livres sur le couple, sur la psychologie, puis comment utiliser son temps, comment de faire ci, comment de faire ça, c'est extraordinaire. Hein.
Et il y a une véritable industrie autour de ça, d'ailleurs. Il y a un véritable merchandisage, hein, comme on dit en français.
Complètement, ouais. Ça suit. Mais après, il y a les cassettes vidéo, il y a les cassettes audio qu'on peut mettre dans sa voiture pour pratiquer sa méthode Coué dès le petit matin. Enfin, il y a un marché énorme, effectivement.
Mais plus sérieusement, comment expliquez-vous cet engouement pour ce genre de littérature?
Les Américains sont, au contraire des Français, dirais-je, un peuple qui, je crois, n'est pas cynique d'une façon générale et qui pense que tout peut être arrangé. Il suffit qu'on vous donne le truc, ils vont s'y mettre, ils sont généralement, je dirais, très courageux, très vaillants, ils n'ont pas peur de retrousser leurs manches et de changer leur mode de vie, à la limite. Et ils veulent absolument être heureux. C'est le minimum qu'ils puissent exiger dans la vie, c'est d'être heureux. Donc ils cherchent la retraite qui fera d'eux des gens heureux, qui va fixer, comme ils disent, la condition humaine.
Mais ça explique
vous
aussi.
Êtes d'accord, oui,
oui, je suis d'accord. Et ça explique surtout pourquoi il y a autant de sectes aux États-Unis, parce que les sectes, c'est la même mécanique. Hein. Mm-hmm. Les gens, ils vont trouver Dieu, ils vont trouver une façon de trouver le froid, etc. Mais je crois que c'est exactement la même démarche.
Il faut une recette.
C'est une recette.
Il y a des auteurs en France qui, bon, on peut le dire franchement, ont des livres de commande hein, et qui, dans ces livres pratiques, dans ces domaines pratiques, ne croient pas trop à ce qu'ils font. J'ai pu rencontrer aux États-Unis ces auteurs. Ils croient vraiment à ce qu'ils font parce que c'est vrai que j'ai pu voir certains livres qui sont quand même, je trouve, un peu trop, quoi, comme on dit.
Mais oui, ils sont trop. Ouais. Et moi, non, je ne peux pas imaginer qu'ils y croient tous. Il y a des gens très sérieux qui sont dans ce domaine-là. Bon, si on exclut cela, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que c'était un pactole inimaginable et qui ont sauté dans le wagon, comme on dit en anglais.
Ouais, moi, je suis sceptique.
Ils ne le croient pas tous. Ils ne le croient pas tous, heureusement, d'ailleurs.
C'est pour faire de l'argent, on peut le dire.
Bien sûr, c'est pour faire de l'argent. Ouais.
Vous m'avez dit également, quand on s'est rencontrés il y a quelques jours de cela pour préparer cette émission, que même la texture du papier était différente aux États-Unis.
Oui, les livres américains se présentent d'une manière différente. D'abord, ce n'est pas dans leur présentation, mais ils sont beaucoup moins chers qu'en France. Ce qui est quand même très agréable. Un livre aux États-Unis, ça coûte en moyenne entre 10 et 15 dollars, c'est-à-dire 50 à 75 francs. Ouais. C'est rare. Un livre qui arrive à 100 francs, c'est quand même rare. C'est un très très gros bouquin. Et quand ils viennent de sortir, ils sont ce qu'on appelle hardcover, c'est-à-dire qu'ils ont une couverture en carton très épais, très lourd. C'est la même chose pour les livres scolaires qui démontent le dos des petits écoliers dans leur sac à dos. Ce sont des livres très lourds et très épais. Et ensuite, il y a l'édition de poche qu'on connaît chez nous. Mais les livres à couverture souple, comme nous les avons en France, seront considérés aux États-Unis en fait comme une sorte de livre de poche. Donc ils ont une présentation un petit peu différente.
Et pourquoi ce poids? Parce qu'il n'y a pas de métro, peut-être,
aux
États-Unis.
Le poids de la science, le goût de la solidité.
Je crois que ça vient d'Angleterre. Parce qu'il y a la tradition anglaise, parce qu'en Angleterre aussi, on trouve ce genre de livres. Je crois que c'est surtout une tradition anglaise qui est arrivée chez nous.
Alors là, j'ai posé une question à tous les deux, là, à Nicole et à Bob. Vous savez, on est bourré d'idées reçues ici en France et on a l'habitude de penser, de dire que les Américains sont incultes et qu'ils ne lisent pas. Est-ce vrai? Je vous rassure tout de suite, les Français ne lisent pas.
Hein. Écoute, j'ai lu les statistiques sur les Français récemment, c'est quand même très inquiétant. Le nombre d'illettrés en France, et puis en plus on a voulu cacher ces statistiques, c'est encore pire. Non, je crois que l'Amérique, c'est vrai, c'est un pays où il y a une grande majorité des gens sont incultes, enfin incultes, ça veut dire qu'ils ne lisent pas, mais il y a aussi un parti de la population qui lit, qui sont, parce qu'on a des bonnes universités, on a beaucoup de possibilités. C'est-à-dire, une chose qui est très positive dans cette culture américaine, c'est que tout le monde sent le besoin de partager au plus grand nombre de gens un vie culturelle. C'est-à-dire que les livres sont moins chers, on a des efforts, on a des bibliothèques formidables un peu partout. Et je crois qu'il y a beaucoup d'organisations qui cherchent justement de toucher le plus grand nombre de gens. Et le fait qu'on ait un programme culturel quand même qui est financé très souvent par le privé, mais quand même, il est très accessible. Je veux dire que vous allez à l'Opéra à Lincoln Center, vous payez une tierce qu'on paye à l'Opéra de Bastille. C'est-à-dire que quand même, c'est accessible pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les gens de classe ouvrière qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que la culture en France, parfois c'est gratuit, c'est vrai, mais parfois c'est très cher.
Voilà une idée reçue qui vient d'être brisée. Merci Bob Swan. Nicole, vous avez des enfants qui ont grandi et vécu aux États-Unis. Les États-Unis est peut-être la société la plus médiatisée, hyper médiatisée. Et il y a un débat qui revient sans cesse, qui est récurrent aussi en France, et qui dit que la télévision, que l'ordinateur, que certains médias vont empêcher les enfants et vont empêcher tout simplement les Français de lire. Vous le croyez ?
J'ai l'impression qu'il y a une réaction à l'heure actuelle. Il y a tellement de télévision, il y a tellement de chaînes, il y a tellement de programmes. Évidemment, vous avez une grande partie de la population, je crois, en France comme en Amérique, parmi les enfants comme parmi les adultes, qui passent un très grand nombre d'heures devant la télé. Et en même temps, ça n'est pas la mort du livre, comme on l'a annoncé tellement de fois, puisqu'aux États-Unis, l'édition, c'est un marché énorme. Mmh. Et les grandes librairies connaissent un succès considérable. Donc, moi, je rejoindrai ce qu'a dit Bob. Il y a évidemment des Américains incultes, tels que les Français les rêvent, en quelque sorte. Mais vous avez aussi énormément de gens qui aiment lire. Vous avez ceux qui lisent des romans de gare, des Daniel Steele, qui d'ailleurs représentent elle aussi un marché considérable. Et puis, vous avez des vrais fanats de la littérature, des drogués du supplément littéraire du New York Times ou du New Yorker, qui suivent ça de très près. Et qui aiment vraiment la lecture. Et les enfants dans les écoles sont encouragés à lire avec plus ou moins de succès. C'est toujours la même chose, selon leur environnement familial et selon l'école dans laquelle ils se trouvent. Mais on les encourage beaucoup à lire.
C'est vrai. Et une chose qui quand même me fascine, c'est que souvent, moi je défends par les Américains parce que j'adore la France, je suis là depuis 30 ans. Mais c'est vrai, de temps en temps, ça m'énerve parce qu'on est extrêmement critique, on les traite des incultes. Mais en fait, il faut voir la puissance de cette littérature américaine. Le fait qu'ici, en France, on lit ces livres, en Angleterre, etc., il y a un impact sur les autres auteurs de d'autres pays. On peut dire la même chose pour le cinéma américain, la musique pop américaine, la musique de musique contemporaine américaine, le ballet américain. Je veux dire que les Américains, dans tous les domaines, que ce soit la peinture, la musique, la danse, le cinéma et la littérature, marque les gens partout dans le monde entier.
Alors, donc au diable l'exception culturelle.
Honnêtement, je crois. Il y a des choses que j'aime pas du tout dans cette pop, mais il faut dire quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en plus, c'est ce qui est très intéressant, c'est que la politique culturelle américaine n'est pas financée ou subventionnée par l'État. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais rien. Mais en France, c'est lourdement subventionné. Et en Amérique, pas du tout. Hein? Et est-ce que les résultats en France, est-ce que le fait qu'une % de la budget culturel, est-ce que nos artistes, ça les rend plus productifs en France, plus créatifs, est-ce qu'ils vivent plus dangereusement, est-ce qu'ils prennent plus de risques? Je ne sais rien. Moi, je sais en Amérique, les artistes sont des gens extrêmement marginaux. Ils luttent pour créer, et c'est un calvaire quotidien. Et puis le résultat, quand même, est fortement intéressant.
Effectivement, ce sont des questions que bon nombre de gens se posent, mais que nous ne pourrons pas aujourd'hui amener à terme, n'est-ce pas ? Nous ne pourrons pas trouver de réponse à ces questions. Juste avant de se quitter, je voudrais que chacun vous donniez un peu votre livre américain, que vous nous conseillez un peu en lecture. Que lire en ce moment, Bob ?
Bah, comme je vous ai dit, moi je viens de terminer le film de Jake Lamar, qui est formidable. Mon coup de cœur depuis toujours, ma raison d'être parisienne, c'est Tropic of Cancer d'Henri Miller, parce que c'est un livre que je trouve magnifique, qui m'a bouleversé quand j'avais 16 ans. Et quand je le relis, c'est tout un Paris que j'aime et que je cherche quelque part dans mes films de retrouver ce Paris-là. Voilà.
Nicole, votre livre.
Moi, en ce moment, je lis un roman d'Anne Tyler, qui est l'auteur d'un livre dont on avait fait un film, The Accidental Tourist. Je crois que ça s'appelait Le Touriste malgré lui en français. Mm-hmm. Le livre que je lis s'appelle Ladders of Years. C'est un roman extrêmement féminin sur une femme qui part un beau jour au bord de la plage et puis qui finalement quitte sa famille et explore diverses possibilités dans sa vie. C'est ce que je lis en ce moment avec grand plaisir. Sinon, aux États-Unis, bon, j'ai lu, vous en doutez, Silver, les grands romans de la littérature noire, ceux de Richard Wright, James Baldwin, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi Paul Auster, qui a été découvert en fait en France avant de l'être aux États-Unis. Comme
c'est l'auteur agaçant qui est très beau, c'est ça ?
Il est très, très beau.
C'est pas qu'il te fait faire, oui.
très difficile, mais très beau.
Voilà, exactement.
Mais écoutez, moi aussi, je vais aller de mon petit conseil. Je vais conseiller aux auditeurs de lire ce qui a été pour moi une claque, Dorothy Parker, Comme une valse, que l'on peut trouver, si j'ai bonne mémoire, chez 10-18, en domaine étranger. Très belle écriture, une série de nouvelles extraordinaires, fabuleux, à lire le plus urgentement possible. Je vous remercie tous les deux d'être venus dans l'émission Longue Distance au 16e Salon du Livre pour nous parler de l'Amérique et de la lecture, et aussi pour nous parler de vous, Bob Swan, l'Américain de service. N'est-ce
merci,
pas
merci.
À Paris, puisqu'on vous reçoit dans nombreuses émissions pour nous parler de votre vie d'Américain à Paris. Merci, à très bientôt. Au revoir.
Merci.
Excellente journée, excellente soirée à l'écoute des programmes de RFI. Très bon week-end avec nous sur cette antenne. Et rendez-vous lundi à 10h en temps universel pour un nouveau Longue Distance.